Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Scène vue et entendue un dimanche soir à Shanghai, une deuxième nuit de protestation. Sur cette vidéo prise par notre correspondant en Chine, Frédéric Schaeffer, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la politique zéro Covid du pays. Et la scène s'est répétée à Pékin, à Wuhan et même à l'université de l'ex-étudiant Xi Jinping. Et dans de nombreuses grandes villes, la Chine est le grand ras-le-bol du Covid. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un immeuble en feu à Urumqi, en Chine. On entend les cris des résidents qui appellent au secours dans cette vidéo terrible postée sur TikTok. L'incendie va faire 10 morts, des victimes qui ne pouvaient pas sortir de leur appartement en raison des mesures de confinement prises par les autorités. Le feu de la contestation couvait contre la politique zéro Covid en Chine depuis des mois. Ce drame a poussé des milliers de Chinois à descendre dans la rue, de Shanghai à Pékin, en passant par Urumqi, Canton ou Wuhan, au cri de « non au test Covid ». Oui à la liberté, pas de test PCR, on veut de la nourriture. Bonjour Frédéric Schaeffer.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes correspondant des Échos à Shanghai. Vous avez eu deux nuits agitées dans les rues de Shanghai, vous n'avez pas dû beaucoup dormir. Ce lundi matin, vous étiez aux Aurores, près de la rue Urumqi, où la police a commencé à monter des barricades. C'est ce que vous avez pu voir ce matin. Quelle est la situation en ce lundi 28 novembre ?
Oui, palissades, barrières, forces de l'ordre, c'est vraiment le triptyque en ce moment dans ce quartier de Urumqi. C'est la rue où tout a commencé samedi soir à Shanghai. Alors là, au moment où on se parle, on est en fin d'après-midi maintenant à Shanghai. Pour l'instant, il n'y a pas de manifestants, les gens sont au travail. J'ai vu passer des appels à manifester sur les réseaux sociaux. Je suis incapable de savoir à l'heure actuelle si ce sont des fake news ou pas. Mais clairement, là, dans les prochains jours, on va voir, ça va être un test pour savoir si les manifestations auxquelles on a pu assister ces derniers jours sont un feu de paille ou l'amorce de protestations plus importantes.
On sentait monter depuis quelque temps un ras-le-bol ou en tout cas des interrogations sur la politique zéro Covid de la Chine. On en a parlé déjà dans la story. Pourquoi cette vague de contestation a-t-elle gagné aujourd'hui plusieurs grandes villes chinoises ?
Oui, alors c'est vrai que ce qui est frappant là, au cours de ces derniers jours, c'est finalement de voir qu'il y a des manifestations sous différentes formes, mais il y a des manifestations dans plusieurs grandes villes de Chine. Il y en a eu à Pékin, on a parlé de Shanghai, il y en a eu récemment à Canton, il y a eu Urumqi. Donc voilà, c'est ça qui est assez frappant, c'est la concomitance de tous ces mouvements. C'est pas la première fois que ça râle autour de la politique zéro Covid chinoise. On se souvient par exemple au mois d'avril et mai, pendant le verrouillage de Shanghai, de ces images très fortes de gens qui protestaient aux fenêtres. Donc c'est pas la première fois, mais c'est vraiment, on sent monter une vague de colère. Et là, le mouvement qui a été déclencheur, c'est la mort jeudi dernier de 10 personnes dans un incendie dans un immeuble à Urumqi, justement, qui a suscité une immense vague de tristesse d'abord et de colère. Et on voit qu'elle a dépassé le seul cadre des réseaux sociaux. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, visiblement, les pompiers ont eu difficilement accès à ce complexe résidentiel, donc dans cette capitale du Xinjiang, qui est confinée, elle, depuis plus de 100 jours. Et donc, ils ont imputé ça à la politique zéro Covid, parce que les pompiers, avec toutes ces barricades, ces voitures coincées qu'on peut plus redémarrer, etc., eh ben, elles n'ont pas, ces pompiers n'ont pas pu accéder au site. Et fait très rare dans cette région ouïghour, les habitants ont exprimé leur colère et ont même levé leur poing vendredi soir pour réclamer la fin du verrouillage de la ville. Et après, ce mouvement a fait tache d'huile dans d'autres villes de Chine.
Ouais, en Chine, le zéro Covid tue plus que le virus, c'est ce que vous a dit un manifestant que vous avez rencontré récemment. Le virus est encore très présent en Chine ?
Bah, dans un pays qui pratique le zéro Covid, c'est-à-dire qui ne veut pas vivre avec le virus contrairement au reste du monde, oui, les chiffres sont importants. On atteint aujourd'hui plus de 40 000 cas de contamination par jour. Et pour la Chine, c'est un record. C'est du jamais vu depuis maintenant 3 ans, même si on peut considérer que ces chiffres dans un pays d'1,4 milliard d'habitants sont finalement assez bas par rapport aux normes mondiales. Mais encore une fois, pour un pays qui veut vivre sans le virus, c'est beaucoup. Et donc, effectivement, on voit ces derniers jours, c'est même ces dernières semaines, une montée des restrictions anti-Covid pour essayer d'endiguer cette vague épidémique.
Vous étiez samedi soir à Shanghai, dans la rue, quand tout a commencé. Racontez-nous cette soirée très spéciale.
Oui, c'était très spécial. Alors, en fait, c'était effectivement samedi soir, heure de Chine, à peu près à l'heure du match France-Danemark. En fait, moi, j'ai été alerté tout simplement par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur WeChat, un de mes contacts a posté une vidéo de ce qui se passait dans cette fameuse rue Urumqi. Urumqi, c'est le nom d'Urumqi, hein, en mandarin, c'est le même nom de ville. Et donc voilà, et donc ça a commencé en fait par plusieurs dizaines de personnes qui se sont réunies, déposant des bougies et des fleurs pour rendre hommage à ces 10 personnes mortes dans l'incendie. Et en fait, un peu comme moi, quoi, des gens, des centaines de jeunes qui ont vu, ont commencé à voir ce qui se passait là via WeChat, ont rejoint cette veillée silencieuse et en fait qui s'est transformée peu à peu en manifestation. Alors en manifestation très largement silencieuse, mais quand même avec certaines personnes quand même qui ont ouvertement, publiquement crié des slogans pour dénoncer la politique zéro Covid chinoise. Il y a eu des slogans « on veut la liberté », »,« on veut pas les confinements », »,« on en a marre des tests PCR », »,« on veut la liberté ». Et puis on a même vu que ça avait commencé à prendre un tournant politique, puisque les plus audacieux s'en sont même pris au pouvoir en place en criant « Xi Jinping démission, abat le parti communiste chinois », ce qui est complètement fou en plein cœur de Shanghai.
Ouais, c'est des images et des mots auxquels on n'est pas habitué, hein, Frédéric, en Chine.
Non, bah moi je vis en Chine depuis plus de 6 ans et j'avais jamais entendu ça. Et franchement, j'ai été surpris d'entendre ça en plein cœur de Shanghai dans la nuit de samedi et dimanche. Et j'ai même des Chinois qui étaient autour de moi n'en croyaient pas leurs oreilles. Et encore une fois, c'est pas la première fois, hein, que ça râle contre le zéro Covid. On se souvient aussi de la banderole très forte, la banderole hostile au président Xi Jinping et au zéro Covid qui avait été mise comme ça sur un pont de Pékin avant le 20e congrès. Mais voilà, ce qui est aussi inédit, c'est que ça se passe aux quatre coins du pays.
Vous avez retweeté aussi une vidéo de Stéphane Lagarde, un correspondant de RFI. On entend des manifestants brandir des feuilles blanches et les agiter dans le vent. Et alors, il faut que vous nous expliquiez pour quelles raisons font-ils cela?
Alors oui, il y a eu à Shanghai, samedi soir, même hier, à Pékin, effectivement, ces jeunes manifestants qui brandissaient des feuilles de papier blanc. C'est tout simplement, c'était pour exprimer leur signe de solidarité, hein, mais en fait c'est également une façon de faire référence au manque de liberté d'expression qu'il y a en Chine. Et d'ailleurs, même d'autres ont publié des carrés blancs comme ça sur leur profil WeChat. C'est une façon de dire aussi, malgré la censure en Chine, on n'a pas besoin d'écrire quoi que ce soit sur des papiers pour que vous compreniez ce qu'on veut dire. Il y a eu plusieurs comme ça moyens qu'ont utilisé les manifestants pour exprimer leur mécontentement. Il y a eu des jeux de mots subtils. Par exemple, donc dans les étudiants de dimanche là de l'université Tsinghua à Pékin se sont pris en photo en montrant les fameuses équations du physicien Friedman. Et Friedman, voilà, ils l'ont pris parce que Friedman, homme libre, Fried, voilà, pas le freedom. Et voilà, c'est une façon pour de nombreux Chinois de contourner la censure.
Autre façon originale, l'AFP raconte aussi que certains écrivent « peau de banane » et « mousse de crevette ». Le premier terme a les mêmes initiales en chinois que le nom du président, alors que le second a une sonorité proche du mot « démission ». Vous avez publié pas mal de vidéos hein, sur votre compte Twitter. Vous étiez vraiment au cœur des événements. Il y a une autre image forte sur votre fil Twitter. Une image que vous avez récupérée, hein, celle d'un homme qui reste debout devant un camion de policiers avant de se faire embarquer manu militari sous les cris de la foule. Hein, c'est ce qu'on entend derrière moi. Alors, c'était pas un tank, mais ça demande beaucoup de courage. Qui sont justement ces manifestants?
Oui, c'est sûr que c'est des choses dont on n'est pas habitué à voir en Chine. Les protestations comme ça de la société civile sont devenues très rares puisque le gouvernement a coupé la voie à la plupart de ces actions collectives. Mais on voit effectivement que finalement les règles omniprésentes anti-Covid qui sont en Chine depuis 3 ans, ben finalement ça apporte des souffrances partagées et puis ça crée un foyer de colère, j'allais dire, qui cible la même politique. Et là, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes et qui se sentaient finalement galvanisés par ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Ils s'étonnaient presque de vivre ça, d'être là, voire même de ce qu'ils pouvaient dire. Pour la plupart d'entre eux, c'était leur première manifestation.
Et d'ailleurs, visiblement, c'est ce que vous racontez. Hein. Des policiers ont tenté d'argumenter avec eux. Rentrez chez vous, vos parents ne sont sûrement pas d'accord avec ce que vous faites. Et des manifestants ont crié, nos parents sont avec nous. Des images très fortes. Dimanche soir, il y avait des grosses tensions à Shanghai. Hein, c'est ce que vous écrivez sur Twitter. On l'entend encore dans cette vidéo que vous avez tournée. Les manifestants et les policiers sont bien plus nombreux que la nuit dernière. Comment les autorités réagissent-elles, justement?
Oui, moi, c'est ce que j'ai trouvé hier. Hier, clairement, parce que l'information s'est diffusée malgré tout et malgré la censure, il y avait beaucoup plus de monde aux abords de la rue Urumqi. Pourquoi aux abords? Parce qu'en fait, la section de la rue qui avait été le théâtre des manifestations dans la nuit de samedi à dimanche, elle a été fermée, elle était fortement encadrée par les présences policières. Mais en fait, dans toutes les rues adjacentes, il y avait beaucoup de monde, plusieurs milliers. Alors bon, voilà, beaucoup de badauds, c'est silencieux, etc. Mais malgré tout, il y a quand même dans cette masse quelques centaines de gens qui ont exprimé publiquement et oralement leur mécontentement. Ça s'est globalement plutôt passé dans le calme. J'ai assisté à quelques échauffourées, mais majoritairement, c'était très calme. J'ai assisté effectivement aussi à quelques arrestations. Mais voilà, la police n'est pas habituée aux protestations, mais par contre, dans un pays d'un milliard quatre d'habitants, le maintien de l'ordre et la gestion des foules, c'est quelque chose qu'elle sait faire. Et donc, à un moment, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle, surtout dans la nuit de samedi à dimanche, finalement, elle a laissé faire, elle a laissé cette colère s'exprimer quelques heures. Et il y a un moment, elle a sifflé la fin de la récréation. Et là, ça a été de manière plutôt calme, mais elle a vraiment poussé, évacuer les gens hors du périmètre. Et c'est ce qui s'est passé aussi dimanche, finalement, demandant aux gens de partir et comme ça, en faisant avancer le cordon. C'est comme ça qu'elles ont dispersé les manifestants.
Ah, il y a un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, qui a pris la parole. Il a d'abord accusé des forces aux motivations cachées d'établir un lien entre l'incendie d'Urumqi et la réponse locale au Covid-19. Il dit, sous la direction du Parti communiste chinois et avec le le soutien du peuple chinois. Notre combat contre le Covid-19 sera une réussite. Il y avait des milliers de manifestants dans les grandes villes ou les universités. Alors, c'est encore peu, hein, vous le disiez, pour un pays d'1,4 milliard d'habitants. Les Chinois sont-ils au courant de ce qui se passe, Frédéric ?
Oui, alors c'est vrai que on en parle beaucoup. Ce qui se passe en Chine, c'est une vague de colère qui est inédite. Après, effectivement, quantitativement, ce sont quelques milliers à Shanghai, quelques centaines à Pékin, etc. Donc quantitativement, pour l'instant, ça ne représente pas grand-chose. C'est pour ça qu'il va falloir suivre dans les prochains jours ce que devient ce mouvement. En fait, oui, alors évidemment, les médias officiels ne parlent évidemment pas de ce qui se passe. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, Pékin réaffirme sa politique zéro Covid. On pourra en reparler plus tard des raisons. Donc, c'est pas par les médias officiels, évidemment, que les Chinois sont informés. Après, les vidéos, comme je vous l'ai dit, elles ont très vite circulé sur WeChat. Et c'est comme ça que les gens ont été au courant. Bien évidemment, il y a toujours un jeu de chat et la souris entre les censeurs et ceux qui postent des contenus sensibles. Et la censure, elle reprend vite ses droits avec des vidéos qui sont retirées des sites des partages ou des hashtags censurés. Et les gens en ont bien conscience. D'ailleurs, parmi les manifestants, certains, finalement, me demandaient de poster des vidéos parce qu'eux savaient qu'ils ne pourraient pas le faire. Et il y avait une volonté de se dire, ben nous, de toute façon, ce message, il ne va pas passer en Chine, donc portez-le à l'international.
Ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans une de vos vidéos sur Twitter. On voit, en même temps que les gens crient et manifestent, beaucoup d'entre eux sont avec leur téléphone portable en train de filmer ce qui se passe.
Oui, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui filmaient ça, parce qu'eux-mêmes, je pense, étaient très surpris par ce à quoi ils assistaient. Et en général, ils peuvent aussi le poster sur leur compte WeChat. Avec quand même le risque qui peut pas être écarté de se voir bloquer ce compte WeChat. On a vu récemment, notamment après l'histoire de la banderole diffusée sur le pont de Pékin, des gens qui avaient partagé ces photos entre contacts comme ça hein, sur WeChat, se voir fermer leur compte WeChat dans les jours qui ont suivi.
Quelques jours plus tôt, la Chine bourrissait aussi d'une autre contestation dans les usines de Foxconn à Zhengzhou. Des manifestations violentes dans l'usine du monde qui fabrique des iPhones, une entreprise particulièrement symbolique. Frédéric, quel lien y a-t-il entre ces deux mouvements ?
Alors, à Zhengzhou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est donc cette ville qui est dans le centre de la Chine. Il y a eu un regain épidémique. Courant octobre, mi-octobre. Et en fait, cette ville a quasiment été mise en lockdown, verrouillée à cette époque. Et donc, en fait, l'usine d'iPhone, donc c'est vraiment une ville dans la ville, hein, c'est 200 à 300 000 salariés qui travaillent dans cette usine. Et en fait, quand il y a des cas comme ça dans une région, on l'avait vu au moment de Shanghai au printemps, les autorités demandent aux entreprises, si elles veulent maintenir la production, de travailler en boucle fermée. C'est-à-dire que l'usine est quasiment coupée du reste du monde avec les salariés qui vivent, qui dorment, qui mangent sur place. Alors de toute façon, dans une usine de cette taille-là, c'est déjà un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des dortoirs qui sont prévus à cet effet parce que la plupart des salariés, en fait, ils ne viennent pas du tout de cette ville. Ils peuvent venir de partout en Chine. Mais là, quand même, ça fait quand même depuis mi-octobre que cette usine vit coupée du monde avec l'impossibilité pour les salariés de sortir. Et donc, il y a eu cette exaspération. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que, donc ça, c'est le point commun, c'est le zéro Covid qui fait que cette usine est verrouillée depuis la mi-octobre. Ce qui est intéressant de noter, en fait, aussi, dans ce cas-là, c'est que la difficulté qu'a toujours, d'ailleurs, Foxconn en ce moment, c'est que le virus, il est malgré ses précautions, il est entré dans l'usine et il y a eu des cas de contamination au sein de l'usine Foxconn. Et là, en fait, les salariés, ils ont commencé à avoir très peur, non pas du zéro Covid, mais ils ont eu peur du virus lui-même. Il y a eu une crainte de propagation et une peur du virus qui a fait fuir de nombreux salariés début novembre. Pareil, on avait vu des images de gens quittant l'usine à pied pour essayer de rentrer chez eux. Et là, c'est parce qu'en fait, ils estimaient que les mesures prises à l'intérieur de l'usine pour prévenir le virus n'étaient pas suffisantes et ils ont préféré partir. C'est d'ailleurs ça qui, après, a poussé Foxconn à énormément recruter de nouveaux employés pour remplacer ceux qui étaient partis. Et finalement, là, les images qu'on a vues la semaine dernière de manifestations violentes hein, au sein de l'usine, ça a été le fait de nouveaux employés qui débarquaient et qui se sont plaints des conditions de vie. Bon, il y avait la question du versement des primes, mais aussi d'une rumeur qui indiquait que finalement, ils étaient encore au contact avec des gens positifs au sein même de l'usine.
Ces manifestations interviennent aussi quelques semaines après la fin du congrès du Parti communiste chinois qui a consolidé le pouvoir de Xi Jinping. Pékin va-t-il devoir relâcher le zéro Covid maintenant que ces festivités sont passées ?
Bah, comment va réagir Pékin ? C'est vrai que c'est la grosse question. C'est très compliqué pour Pékin, notamment de relâcher le zéro Covid. Et on voit bien qu'avec cette politique, finalement, la Chine s'est mise elle-même dans un corner. Elle est vraiment prise au piège de sa propre politique. On l'a vu parce qu'elle a essayé d'assouplir les règles et les restrictions il n'y a pas si longtemps que ça. Mi-novembre, ils ont annoncé une vingtaine de mesures qui visaient à assouplir les règles. Et puis, voilà, le moindre relâchement, ça pousse une croissance des cas de contamination et donc elle a fait totalement machine arrière. Donc sortir du zéro Covid, ça va être très difficile, ça va prendre du temps. Et en fait, finalement, la Chine avait célébré sa victoire contre le virus. Vous vous souvenez, en septembre 2020, il y avait une grande cérémonie au Palais du Peuple. Xi Jinping avait remis des médailles aux héros du zéro Covid, et notamment ceux qui avaient battu le virus à Wuhan. Et c'est vrai que à cette époque, cette politique, elle a marché en 2020, au prix de mesures extrêmement dures. On se souvient quand même de ce qui s'est passé à Wuhan. Mais à l'époque, ça avait marché. Mais en fait, la Chine, elle s'est finalement reposée sur ses lauriers pendant cette période. Elle s'est pas du tout préparée à une résurgence épidémique. Et résultat, aujourd'hui, elle se retrouve avec une population de seniors qui est très peu vaccinée. Elle a pas de vaccin ARN chinois. Elle a refusé les vaccins ARN étrangers pour des raisons purement patriotiques. Et elle a toujours un système hospitalier chinois qui est insuffisant face à une flambée épidémique. Donc, vraiment, objectivement, la situation sanitaire ne serait pas simple si, du jour au lendemain, la Chine levait sa politique zéro Covid. C'est très compliqué dans ces conditions de relâcher les restrictions dans un pays de 1,4 milliard d'habitants.
Avec des conséquences déjà sur l'économie chinoise qui ralentit, des conséquences aussi pour les entreprises. On a déjà parlé ensemble dans un précédent podcast, beaucoup d'expatriés quittent la Chine. Il y a un risque que des entreprises en fassent autant ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas que les Chinois qui en ont marre du zéro Covid, que la situation économique, elle est très compliquée pour eux, elle est également compliquée pour les entreprises chinoises et les entreprises étrangères et donc les entreprises françaises. Les entreprises françaises ont récemment exprimé d'ailleurs qu'elles en avaient, leur lassitude par rapport à la politique zéro Covid, parce que voilà, ça a un impact très fort, il y a un ralentissement de l'économie chinoise assez inédit depuis ces 30 à 40 dernières années. Pour la première fois, la Chine, cette année, qui est d'habitude est un puissant moteur de l'économie mondiale, pour la première fois cette année, elle va, depuis 30 ans, elle sera à la traîne des autres pays asiatiques. Donc voilà, les entreprises naviguent à vue, on n'a aucune visibilité sur le zéro Covid. Du jour au lendemain, elles peuvent voir leur usine ou leur, si c'est des commerçants, leur boutique, leur restaurant fermé en cas de cas positif, voire même de cas contact. Donc oui, c'est compliqué pour elles. Après, est-ce qu'il y a des entreprises qui risquent de quitter la Chine ? On voit qu'on n'est pas tant dans ce mouvement-là. Par contre, le vrai mouvement, c'est ce qu'on appelle la Chine plus 1. C'est que maintenant, les entreprises qui avaient énormément investi sur la Chine, elles restent en Chine pour la Chine. Mais la stratégie, c'est d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc, on voit maintenant, notamment des multinationales, mais même des grandes entreprises chinoises, privilégier aussi d'autres pays asiatiques pour leurs futurs investissements. Ce qui est intéressant à noter, c'est que récemment, l'ambassade de France et la Chambre de commerce et d'industrie française a posté sur Weibo justement un texte pour dénoncer cette politique zéro Covid et dire qu'il fallait que la Chine passe à autre chose. Ce qui a été très intéressant, c'est que ça a été très partagé par les Chinois, sur Weibo avec très majoritairement des messages positifs et avec des un peu des voilà, il y avait des messages comme merci la France de prendre la parole pour les Chinois, c'est vraiment le pays de la révolution, il y en a même qui ont dit que la France méritait de gagner de la Coupe du monde. Donc c'est voilà, tout ça c'est quand même des petits capteurs qui montrent aussi que voilà qu'il y a une vraie fatigue et une exaspération des Chinois par rapport à cette politique zéro Covid.
Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Shanghai, au cœur de la rue Urumqi. Je vous encourage à le suivre sur Twitter pour avoir un aperçu de la situation en Chine. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement et de streaming pour ne manquer aucun épisode de La Story, le podcast des Échos.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.